On vient d'entendre la nouveauté du groupe Cherry Cherry. Ça s'intitule « Hurler à la lune ».
Et sans plus attendre, on aborde le volet culturel de cette émission avec une excellente nouvelle que nous rapporte la presse canadienne. Le titre dit tout. Les rois mongols primés à la Berlinale. Les rois mongols, le film de Luc Picard, a remporté l'Ours de cristal au Festival international du film de Berlin, un prix qui est décerné chaque année par des jeunes. Les 11 enfants et 7 adolescents du jury disent avoir apprécié le jeu des acteurs du film qui leur a permis de sympathiser avec leurs personnages et de se plonger profondément dans l'histoire. Ils affirment avoir été charmés par l'humour omniprésent dans le long-métrage qui aborde pourtant un sujet très sérieux. Les jurés ont aussi reconnu les aspects techniques du film, notamment la musique et les plans de caméra. Les Rois mongols est le 4e long-métrage réalisé par Luc Picard. L'œuvre, inspirée du roman de Nicole Bélanger, met en scène la vie de 4 enfants pendant la crise d'octobre de 1970 qui décident de kidnapper une vieille dame anglophone pour revendiquer leurs droits. Les Rois mongols a obtenu 6 nominations au prix Écran canadien qui seront remis en mars. Il est notamment en lice pour le prix de la meilleure adaptation et de la meilleure direction artistique. Clark Coulter, qui personnifie la vieille dame dans le film, est également en nomination dans la catégorie interprétation féminine dans un rôle de soutien. On demeure à Berlin et donc en cinéma pour aborder un autre film québécois, Les faux tatouages. Berlinale, une première inoubliable pour Les faux tatouages, un titre, de Catherine Schlager. Pour cette première européenne, la splendide salle de 1038 places était presque comble d'un public majoritairement jeune, et celui-ci a manifesté haut et fort son appréciation en applaudissant chaudement le réalisateur, les acteurs Anthony Terrien et Rosemarie Perrault, la productrice Catherine Lefrançois et le directeur photo Vincent Allard, et en posant de nombreuses questions lors de la discussion après le film. Entendre les gens rire pendant la projection et venir me voir ému à la fin, certains même en pleurs, c'est ça ma paye. C'est une des premières fois que j'avais un aussi beau retour de la part des jeunes, explique Pascal Plante. Cette projection acclamée couronnait une semaine riche en émotions pour le cinéaste. Arrivé au lendemain de l'ouverture du festival en compagnie de son équipe, Pascal Plante a eu l'occasion de voir quelques films, dont En attendant avril de son ami Olivier Godin, présentés à la Semaine de la critique. La Berlinale, ce n'est pas juste une bulle de l'industrie. Il y a beaucoup de jeunes, des étudiants en cinéma, un vrai public. C'est un festival prodigieux. Tu es dans des salles incroyables, tu vois ton film dans des conditions parfaites, tu tâtes le pouls du vrai public. Les rencontres entre collègues, cinéastes et gens de l'industrie sont également nombreuses lors d'un festival catégorie A, comme la Berlinale. Ainsi, l'équipe a eu l'occasion de prendre part à plusieurs dîners, réceptions à l'ambassade et autres soirées spéciales. Lundi dernier, Pascal et son équipe étaient invités à un repas organisé pour les artisans de la section Génération. L'occasion idéale de rencontrer l'équipe du film Les Rois Mongols, présentée dans la même section. Luc Picard était assis à côté de nous. Luc, on le connaît tous parce que c'est un comédien vedette, mais je ne l'avais jamais rencontré. L'ironie est que ça prend un festival à l'étranger pour rencontrer autant de gens du Québec et du Canada. Avec la présence de représentants de Téléfilm Canada et de la SODEC, Pascal Plante a également l'occasion de réseauter, mettant ainsi un visage sur des gens de l'industrie dans le cadre de rencontres à l'ambassade du Canada. Je n'étais jamais allé dans une ambassade de ma vie. Et là, en une semaine, j'y suis allé 3 fois. Je le prends avec un grain de sel et avec un peu d'humour, parce qu'on a fait un film punk avec des bouts de ficelle. Théâtre, un texte de Christian Saint-Pierre qui s'est intéressé à la pièce « Les Marguerites » sous le titre « Le crime d'écrire ». De Virginia Woolf à Mary-Louise Fleischer, en passant par Martha von Geschwitz et Jackie Kennedy, Stéphanie Jasmin et Denis Marlowe ont eu le don de nous faire découvrir ou redécouvrir des femmes occultées par leur époque, incomprises par leur société, fascinantes femmes de chair ou de papier qui, souvent après s'être tenues dans l'ombre d'un ou de plusieurs hommes, entrent dans la lumière, apparaissent sur scène dans toute leur complexité, dans toute leur richesse intellectuelle, philosophique, morale et psychologique. Avec les Marguerites, Stéphanie Jasmin dessine en quelque sorte le portrait en creux de Marguerite Porrette, cette béguine dont on ne sait presque rien sinon qu'elle a écrit un livre et qui a franchi les siècles. Le miroir des âmes simples et anéanties, un traité de vie spirituelle à l'ampleur et à la beauté fulgurante et que celui-ci lui a valu d'être brûlée vive en 1310. À vrai dire, le destin de la mystique à la prose subversive est un superbe prétexte, celui d'une traversée des époques sur le thème inépuisable des femmes qui écrivent, celles-là dont on dit qu'elles sont dangereuses, probablement parce qu'elles nomment, dévoilent, représentent et accusent. Nous sommes dans l'atelier d'une artiste, celui d'une sculpteur ou d'une marionnettiste, laboratoire immaculé, chambre d'écho au sol recouvert de poussière de plâtre, refuge tout de même percé de 2 portes et de 2 fenêtres. Dans cet espace vont se déployer, entre Marguerite Porrette et d'autres Marguerites de Constantinople, d'Ouen, d'York, de Navarre et d'Uras, des liens hypothétiques, réels ou poétiques. Contrairement à Carol Churchill, qui avait imaginé dans Top Girls un dialogue entre des femmes de différentes époques, Stéphanie Jasmin juxtapose soigneusement les monologues de manière à laisser le spectateur établir les relations, constater les troublantes résonances. Pour incarner le silence de Marguerite Porrette, ce est celui qu'elle a choisi d'adopter pendant son procès, mais surtout pour traduire son tumulte intérieur, on a fait appel à Louise Lecavalier. Un peu longues, les interventions de la danseuse et chorégraphe au début et à la fin de la représentation sont néanmoins sublimes. Dans la deuxième partie, Céline Bonnier, qui participe au spectacle en alternance avec Evelyne Rompré, prête vie à celle qu'on nomme les témoins. La comédienne, dont le visage est filmé le plus souvent en direct puis projeté sur des portraits émergents du plâtre, glisse tout naturellement du 13e au 20e siècle, relève haut la main le défi d'interprétation en exprimant tour à tour la prestance, l'ingénuité, la gravité, la frivolité et la désespérance. La troisième et dernière portion du spectacle est consacrée à une jeune femme d'aujourd'hui, fortement remuée par le traité de Marguerite Porrette, qu'elle a déniché dans une librairie de seconde main. Brillamment défendu par Sophie Desmarais, le monologue rendant notamment hommage à Sarah Kane et à Nelly Arcan évoque de manière poignante, comme l'écrit fort justement Elsa Pépin dans le programme de soirée, ces femmes d'hier et de maintenant qui cherchent toujours à nommer les contradictions de leur vie intérieure, à donner une dimension sacrée à leur passage, quête de transparence qui porte en elles toutes celles qui les ont précédées. Alors, Les Marguerites, c'est un texte de Stéphanie Jasmin, c'est mis en scène par Denis Marlot, une coproduction de l'Espace Go et d'Ubu, et c'est à l'Espace Go jusqu'au 17 mars. Alors, la semaine de relâche, c'est pour bientôt. Pourquoi ne pas amener les enfants au théâtre? Ripopée, la magie clownesque, c'est Marie Fradette qui signe le texte. Passionnée par le thème du voyage, la metteuse en scène Christine Rossignol l'exploite de façon symbolique dans Ripopée, une toute nouvelle création qui prendra d'assaut les planches du théâtre Les Gros Becs pendant la relâche scolaire. Ripopée, c'est l'histoire de quatre clowns qui vivent dans un voyage inattendu, non pas celui qui nous déplace sur le plan géographique, mais bien celui qui nous ouvre à l'autre, qui invite à le découvrir. Jointe par le devoir, Christine Rossignol explique que le spectacle est avant tout le voyage du moi intime au moi social, le voyage de l'ordinaire à la fantaisie, de l'objectif personnel à la réalisation. Tout pour elle est prétexte au voyage intérieur. Que ce soit l'écho de notre étonnement, notre friction avec la réalité, nos émotions sont des voyages qui nous mènent à d'autres émotions. Le clown, personnage central de la pièce, est d'ailleurs et surtout investi de cette notion par sa façon de suivre ses élans et d'aller dans la fantaisie qui demande un abandon. Un voyage en soi, ajoute-t-elle. La petite troupe de voyageurs qui s'installe sur la scène participe et témoigne de cette ouverture à l'autre. Le public les regarde prendre place, puis le spectacle démarre au moment où les quatre comparses prennent conscience de l'auditoire. C'était important pour la créatrice de briser ce quatrième mur, symbole, dit-elle, du passage de ce moi intime au moi public. Mis en scène en collaboration avec Michel Dallaire, la matérialisation de cette épopée philosophique dévoilera un décor qui rend compte de cet échange. Une roulotte réalisée par la scénographe Huguette Lauzé s'ouvre et tourne selon différents angles. Elle est à la fois le lieu de vie et de représentation des comédiens. L'objectif est ainsi, comme le souligne Rossignol, de décloisonner ces deux fonctions afin de rendre lisible que le clown, quoi qu'il fasse, reste lui-même. Alors, si la chose vous intéresse, Ripopée, c'est une idée originale, une direction artistique et une mise en scène de Christine Rossignol, la direction de personnages Michel Dallaire, les auteurs et interprètes Ariane Cabana, Julie Dionne, Philibert Hébert Fillion, Myriam Sutton, une production du Théâtre de l'Aubergine, présentée au Théâtre des Gros Becs du 27 février au 11 mars, et c'est pour un public de 5 à 11 ans, mais il n'y a rien qui vous interdit d'y aller quand même. Yeah.
C'était un petit détour dans l'univers musical de Lydia Kepinski avec la pièce Andromaque.
Puisque cette émission tire à sa fin, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de météo, mais il faut dire que j'ai aucun mérite puisque tous les journaux en parlent. De Moscou à Paris, l'Europe se prépare à une vague de froid sibérien. C'est cru quand ça arrive aux autres, c'est comme moins froid. Alors, c'est l'agence France-Presse qui nous en parle. L'Europe grelottait dimanche alors qu'une vague de froid sibérien gagnant progressivement l'ensemble du continent a déjà fait au moins 3 morts, un en France et 2 en Pologne. Jusqu'à moins 10 degrés Celsius ressenti à moins 18 avec le vent. Le froid venu de Sibérie s'est emparé de la France dimanche après-midi avec des températures minimales glaciales dans le nord-est du pays selon Météo France. Un sans-abri de 35 ans a été retrouvé mort dimanche matin par ses deux camarades d'infortune à Valence, où le thermomètre est descendu jusqu'à moins 3 degrés dans la nuit. Les premières constatations laissent à penser qu'il est mort de froid, ont précisé les autorités. En Russie, le Centre météorologique national a annoncé qu'entre le 23 et le 28 février, des températures anormalement froides allaient frapper le pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures dans la région de Moscou devraient ainsi descendre à moins 24 degrés Celsius, alors que dans certaines localités du centre de la Russie, le thermomètre va chuter jusqu'à 35 degrés Celsius. Et pendant ce temps-là, à Rome, il y a des bagarres de boules de neige. Alors voilà, profitez bien du printemps qui devrait commencer chez nous vers cette semaine. « Dans le Journal de Montréal, Lise Ravary fait le point sur la visite du premier ministre Trudeau en Inde. Et c'est un point de non-retour, ce qui est son titre d'ailleurs. Connaissez-vous l'expression « jumping the shark », sauter par-dessus le requin? Cela décrit le moment où une série télévisée amorce son déclin, le point de non-retour créatif. Pourquoi sauter par-dessus le requin? Dans un épisode de la comédie américaine Happy Days, The Fonz, le personnage principal saute par-dessus un requin en faisant du ski nautique, une cascade invraisemblable. En Inde, Justin Trudeau a sauté par-dessus son requin, ou comme on dit au Québec, il a frappé son Waterloo. L'organisation d'un voyage officiel, seule la gouverneure générale fait des voyages d'État, prend plusieurs mois, comme le tournage d'un film dans lequel le premier ministre joue le premier rôle. Des travailleurs de l'ombre organisent l'itinéraire, les rencontres, les réceptions, la sécurité. Ils conseillent le premier ministre sur les écueils à éviter, les faux pas à ne pas commettre, les occasions à saisir, le protocole, les us et coutumes locaux, etc. Même le choix des tenues de sa garde-robe de Maharaja, que le magazine Vanity Fair a comparé au style Donald Trump en matière de décoration intérieure. Ouch! Depuis son arrivée au pouvoir, on entend des rumeurs de désorganisation extrême au bureau du premier ministre. Les choses seraient-elles en train de se désagréger? Pourquoi personne ne lui a dit qu'il allait faire rire de lui et triquer comme s'il assistait à un mariage? Pourquoi personne ne lui a dit que d'amener ses enfants envoyait un mauvais message sur l'importance de l'école? Pourquoi personne ne lui a dit qu'il donnait l'impression d'instrumentaliser sa famille, surtout quand il semble en prière? Pourquoi personne ne lui a dit qu'un extrémiste sikh coupable de tentative de meurtre sur un ministre indien en Colombie-Britannique s'était immiscé dans son voyage? Pourquoi personne ne lui a dit qu'un voyage officiel de 8 jours offre trop d'occasions de se mettre les pieds dans les plats quand les relations entre les deux pays sont difficiles? Pourquoi personne ne lui a dit qu'en niant avoir mentionné le séparatisme québécois qu'il accusait son hôte de mentir et que s'il l'a dit, c'est lui qui a menti et qui a gravement insulté le Québec? Pourquoi personne ne lui a dit que les intérêts de la diaspora sikh ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du Canada? Ce voyage va coûter des millions, ne rapportera que des peanuts et de gros maux de tête pour tous les membres de son gouvernement qui devront défendre l'indéfendable. Pourquoi personne ne lui a dit que ce voyage aurait l'apparence de vacances de luxe en famille payées par les contribuables, alors que la controverse entourant les séjours chez l'Aga Khan n'est toujours pas calmée? Pourquoi personne ne lui a dit qu'à son retour, quand le coût du voyage sera révélé, il sera emporté par un scandale en forme de tornade? Son périple de 10 jours en Chine lors du G20 en 2016, accompagné de sa famille, avait coûté 1,8 million, mais avait permis de débloquer de gros dossiers commerciaux valant des milliards. Mais quelqu'un a bien choisi la date de retour, car le budget fédéral sera déposé demain. Les questions sur l'Inde devront attendre. On parlait de la Chine à l'instant même, eh bien, Philippe Melbourne Dufour nous informe sur une de ces pratiques culturelles qu'on essaie d'éradiquer actuellement. La Chine lutte contre les spectacles érotiques lors de funérailles. Le gouvernement chinois part en guerre contre une pratique assez commune dans les zones rurales de ce pays asiatique, celle d'inviter des danseuses exotiques à des funérailles. Le ministère de la Culture a annoncé le mois dernier qu'il allait s'attaquer aux actes vulgaires, obscènes ou pornographiques comme la stripteaseuse pratiquée durant les funérailles, les noces et les fêtes traditionnelles chinoises. Le combat du gouvernement ne date pas d'hier. Déjà en 2006, le ministère de la Culture affirmait s'intéresser à la situation. Selon un communiqué qui peut être consulté sur le site web du ministère, la plus récente offensive ciblera 19 villes dans 4 provinces. Certaines communautés rurales croient qu'un plus grand nombre de gens à des funérailles aident à rendre hommage aux morts et apportent de la bonne fortune à la famille, ce qui pourrait expliquer cette tradition peu orthodoxe. La nouvelle campagne encourage les gens à appeler un numéro spécial pour dénoncer les méfaits en échange de récompenses monétaires. Des sommes astronomiques sont versées à chaque année pour payer du divertissement de ce genre. Dans plusieurs journaux aujourd'hui, on avait également un texte qui se penchait sur les super aînés. Que sont les super aînés? Ben, ce sont des personnes âgées qui ont une mémoire exceptionnelle. Vieux corps, jeune cerveau, quel est le secret des super aînés? Un texte de Lauren Nirgard, oui, de l'Associated Press à Washington. Et il est extraordinaire de voir des octogénaires et même des nonagénaires avoir la même mémoire que des gens beaucoup plus jeunes. Et les scientifiques peuvent maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur du cerveau de ces super aînés pour tenter de percer leurs secrets. Ces recherches découlent des tentatives pour le moment décevantes de trouver de nouveaux médicaments pour prévenir et combattre la maladie d'Alzheimer. Au lieu de ça, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre ce qu'on doit faire pour maximiser notre mémoire? Demande la neuroscientifique Emily Rogalski, qui dirige une équipe sur les super-aînés à l'Université Northwestern. Des portions du cerveau rétrécissent avec l'âge, ce qui explique pourquoi la majorité des gens perdent un peu de mémoire en vieillissant, même s'ils évitent des problèmes comme la maladie d'Alzheimer. On sait maintenant que le cerveau des super-aînés rétrécit plus lentement que celui des autres. L'autopsie des premiers super-aînés décédés depuis le début de l'étude démontre qu'ils ont nettement plus d'un certain type de cellules nerveuses dans une région reculée du cerveau, cruciale à l'attention, a dit Mme Rogalski lors d'une rencontre récente de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Ces aînés ne sont pas seulement une curiosité ou une rareté, prévient la neuroscientifique Molly Wagstaff de l'Institut national sur le vieillissement, qui finance en partie cette étude. On peut potentiellement en apprendre beaucoup et s'en servir pour aider tout le monde, même ceux qui semblent se diriger vers une maladie neurodégénérative, a-t-elle dit. Rabais de 70% sur le Nutella. Les clients se chamaillent, la justice réagit. Ça nous vient de France et de l'agence France Presse, Paris. La justice française devrait être saisie jeudi à la suite d'une promotion à 70% sur le Nutella qui a provoqué des empoignades dans des magasins Intermarché accusés de revente à perte. Nos agents ont conclu au fait qu'Intermarché n'a pas respecté les dispositions en vigueur concernant la revente à perte et c'était pas beau comme scène. Voilà qui met un terme à cette édition donc du 26 février 2018 des Voix de service. Je rends ce micro à sa titulaire dès demain et je remercie Jean-Sébastien Laliberté qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Merci à vous!